Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Grimsy, un billet sans retour, une série en 4 épisodes, signée Gabriel Taïeb.
Dans la nuit du 14 au 15 novembre 1983, Habib Grimsy est mort. Ou plus exactement, il a été tué dans des conditions particulièrement violentes à bord du train de nuit 343 reliant Bordeaux à Vintimille. Son nom sûrement ne vous dit rien, ou peut-être évoque-t-il seulement un lointain souvenir vieux de 40 ans. Pourtant, cet Algérien de 26 ans a bien malgré lui marqué l'histoire de France. Il a marqué en tout cas l'histoire des luttes antiracistes en France. Dans une période où son meurtre vient s'ajouter à une longue liste de crimes, de discriminations ordinaires et quotidiennes, de tensions sociales et politiques, qui fait de cette année 1983 une année charnière dans l'histoire du pays. En interrogeant des témoins et experts de cette période, nous avons souhaité comprendre pourquoi et comment le meurtre de Habib Grimsy a tant marqué son époque avant de s'effacer progressivement de la mémoire collective. Mais aussi revenir sur l'émergence d'une réponse antiraciste dont se proclame héritière un grand nombre d'associations et de mouvements aujourd'hui. Je m'appelle Gabriel Taïeb et vous écoutez Grimsy, un billet sans retour.
En France, c'est un mélange de stupeur et d'indignation qui se manifeste un peu partout après l'assassinat horrible d'un jeune nord-africain de 26 ans.
Ils partent en chasse et trouvent Habib Grimsy, l'Algérien.
Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité.
Votre comportement est bien le seul comportement humain que la victime ait trouvé dans le train ce soir-là.
Épisode 1, l'étranger.
Il est temps, grand temps, d'arrêter la machine infernale. Combattre l'inflation, c'est sauver la monnaie et le pouvoir d'achat.
On entend maintenant souvent parler d'immigrés attaqués, de ratonnades, de rumeurs déclenchant l'inquiétude et le racisme.
Dénoncer l'alliance entre la liste UDF-RPR et l'extrême droite. Si cette coalition l'emportait, alors, pour la première fois depuis la guerre, une importante ville française serait cogérée par un parti aux arrière-pensées néo-fascistes.
Nous sommes en 1983. 2 ans auparavant, François Mitterrand arrive au pouvoir en devenant le premier président de gauche de la Ve République. Loin d'être un détail, cette nomination d'un chef d'État socialiste apporte pour certains de véritables espoirs. Celui d'une politique engagée pour les droits des travailleurs notamment, l'espoir aussi d'une rupture franche et nette avec les septennats précédents. Celui, enfin, d'un mouvement général de solidarité envers les moins privilégiés, les exclus et les minorités. Mais ce doux rêve se fait rapidement rattraper par une crise économique qui s'installe et fait des dégâts, rattrapé aussi par un climat relativement morose et résigné qui vient s'opposer au temps de la contestation post-68. La France change de ton.
Les années 1980 sont en quelque sorte une réaction aux années 1970, et le mot réaction, on peut l'entendre dans les deux sens de ce terme.
Ludivine Bantini, historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen, notamment autrice de « La France à l'heure du monde » de 81 à nos jours, parue aux éditions du Seuil en 2013 et rééditée dans une version mise à jour en 2019.
D'une part, réaction au sens de réagir. Voilà, il s'agit de faire face à ces années dites 1968, qui ont été des années de rébellion, de contestation, d'esprit critique, de grèves nombreuses, de grands mouvements sociaux, d'émancipation dans de nombreux domaines, dont celui de l'antiracisme, de l'anticolonialisme également, du féminisme, etc. Et d'autre part, le mot de réaction, il faut l'entendre dans un sens plus idéologique, plus directement politique encore. C'est-à-dire que la réaction, c'est une forme de retour en arrière, une forme de conservatisme poussé. Donc, on peut considérer qu'avec l'instauration de ce qu'on a appelé le néolibéralisme, même si c'est une expression qui pourrait être nuancée, complexifiée, c'était une façon de dire, voilà, les espérances révolutionnaires qui ont émaillé les années 60 et 70 sont désormais closes, sont désormais terminées, n'ont plus lieu d'être. Donc, ces années 1980 referment en quelque sorte par cette instauration du néolibéralisme et avec une dimension parfois assez autoritaire, les grandes espérances émancipatrice des années 70.
Un basculement qui prend ses marques en 83. Une année marquée notamment par l'officialisation du tournant de la rigueur dans un contexte de forte récession, par une mutation du paysage politique au profit d'une montée du Front National, mais aussi par un changement de discours vis-à-vis des personnes d'origine étrangère, en particulier autour de la figure, souvent fantasmée, de l'arabe.
1983 a été un moment très grave sur le plan de l'accentuation du racisme, en particulier lorsque, avec des grèves, il y a eu des grèves ouvrières chez Renault, en janvier 1983, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, s'est mis à stigmatiser la supposée influence des musulmans chiites au sein de l'entreprise Renault, puisque la grève était essentiellement menée par des ouvriers spécialisés qui, pour la plupart, étaient d'origine algérienne, également tunisienne et marocaine. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois dans l'histoire de France, du point de vue politique et idéologique, que des ministres, à l'instar de Gaston Defferre, ont pu commencer à avoir une politique de stigmatisation à l'égard des musulmans. Et le Premier ministre lui-même, Pierre Mauroy, avait emboîté le pas à Gaston Defferre en disant que les travailleurs immigrés étaient supposément agités, pour reprendre son terme, agités, par des groupes religieux, des groupes politiques. Et il disait que ça n'avait rien à voir avec les réalités sociales françaises. Donc, ses propos avaient choqué, ses propos avaient choqué, y compris les journalistes, parce que, à cette époque, en tout cas, la presse refusait encore de traiter sur un mode ethnique, culturel, une grève, qui s'inscrivait tout simplement dans une longue tradition du mouvement ouvrier. Il y avait une volonté de ne pas séparer les travailleurs français et les travailleurs immigrés. Donc, très clairement, ça a commencé à faire aussi le jeu du Front National. Il faut quand même se rappeler que le Front National, en 1981, la personne de Jean-Marie Le Pen n'avait pas obtenu les 100 seulement signatures qu'il lui fallait pour se présenter à l'élection présidentielle. C'était un petit groupuscule, mais finalement, à un moment de fragilisation, de début de désillusion à l'égard de la politique menée par la gauche, a pu commencer à emporter certaines victoires, notamment lors des élections municipales de 1983, où le Front National a vraiment progressé. Donc, cette année 1983, de ce point de vue, en effet, peut être considérée comme un tournant, d'autant que le Front National va être ensuite adoubé, finalement, dans les médias, à la télévision, ce qui était du jamais vu jusqu'alors.
Les Portugais, les Espagnols ont fait place maintenant aux Africains qui arrivent.
Le racisme. Les Nord-Africains sont voleurs, ils tuent, ils violent. Affirmation sans preuve, rumeur qui pourtant s'étend.
Tout d'un coup, ils ont crié « à mort les Arabes ». Vive la France libre, des trucs comme ça.
En France, des affrontements racistes guettent-ils la deuxième ville du pays? C'est une question que l'on se pose à Marseille.
Il y a un coup, un coup de rasoir.
On nous dit que c'est du racisme, c'est pas vrai, c'est toujours les Maghrébins.
Parce que même quand voilà. C'est des Français ou autres, ou Espagnols ou autres qui nous agressent, comme c'est déjà arrivé, on n'a pas fait de différence. Quand on a pu les massacrer, on les a massacrés quand on les a attrapés. On préfère les attraper nous plutôt que la police, puisque la police les relâche aussitôt.
Depuis 10 ans, la France assiste à une vague de violences commises avec une certaine impunité envers les personnes considérées comme nord-africaines ou arabes. En tout cas, le sujet occupe désormais une place plus importante dans la presse et les débats, et plusieurs associations commencent à dresser des listes tragiques des victimes du racisme en dénonçant régulièrement la banalisation de ces cas.
Alors, ces violences, elles se produisent dans un contexte particulier. C'est un double contexte qui est à la fois celui d'une immigration algérienne assez importante vers la France.
Céline Rognard, historienne des migrations contemporaines et des villes portuaires, et maîtresse de conférences à Aix-Marseille Université. Au cours d'un échange à distance, j'ai pu lui demander comment se manifestent ces violences sur le territoire français à cette époque.
Donc il y a une importante population algérienne qui vit en France, qui vient travailler en France, notamment dans l'industrie. Ça, c'est un premier élément de réponse à votre question. Et le deuxième élément de réponse à cette question, c'est tout simplement le contexte. Contexte de la guerre d'Algérie, contexte postcolonial, qui fait que dans une France encore traumatisée par ce conflit extrêmement violent, la présence d'Algériens sur le sol français n'est pas forcément considérée par certains, en tout cas, comme une bonne chose, et crée des tensions. Elles se manifestent, ces violences, par des actes racistes. C'est très difficile de mesurer les actes racistes du quotidien, hein, comme les insultes, par exemple. En revanche, les actes violents physiquement, évidemment, on peut en avoir une trace. Et il y a effectivement un certain nombre de crimes racistes, notamment l'année 73, hein, 10 ans avant le fait divers qui nous concerne, est particulièrement marqué au printemps, à la fin de l'été, par des crimes racistes dans le sud-est de la France, à Grasse notamment, et puis ensuite à Marseille, de manière extrêmement spectaculaire, puisque à la fin de l'été 73, à Marseille, l'assassinat d'un conducteur de tram par un Algérien à la fin du mois d'août crée une vague d'assassinats contre alors des maghrébins, puisque l'assassin est algérien, mais tous ceux qui ont l'air maghrébins à ce moment-là sont clairement en danger, hein. Il y a eu un appel au meurtre de Gabriel Domenech dans le journal Le Méridional, et il y a des dizaines de victimes, et ça structure une opposition localement et même d'un point de vue national entre les partisans d'une vengeance et ceux qui défendent la cause de ces Arabes, comme on les appelle à l'époque déjà dans les médias, qui sont victimes de ces actes de racisme.
Difficile donc d'aborder la question des violences racistes dans les années 70 et 80 sans évoquer, à un moment, les restes de la guerre d'Algérie. Celle-ci reste ancrée dans la mémoire d'une grande part de la population, et elle explique en partie la structuration des rapports officiels et officieux entre une France dite de souche et de nouveaux arrivants sur le territoire. Pour mieux comprendre ces relations parfois complexes, j'ai interrogé l'historien et politiste Emmanuel Blanchard, spécialisé en sociologie et histoire de l'immigration et sur l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne.
Alors ce qui est sûr, c'est que la guerre d'Algérie ne s'est pas finie du jour au lendemain. Après 1962, nous sommes dans une période qu'on pourrait considérer une période de sortie de guerre, où un certain nombre d'habitudes de violence, notamment du côté des forces de l'ordre, mais aussi de tout un ensemble de personnes qui peuvent se considérer comme étant légitimes à se faire justice. Petits notables, armés, des concierges, par exemple, d'anciens policiers, d'anciens militaires, mais aussi dans le sud de la France en particulier, des personnes dites rapatriées d'Algérie qui ont eu cette habitude de pouvoir exhiber des armes, de pouvoir notamment pendant la période de la fin de la guerre d'Algérie, combattre très directement un certain nombre d'Algériens par la violence. Ces habitudes ne se perdent pas du jour au lendemain, même si on n'a pas quelque chose qui se diffuse dans l'ensemble des espaces sociaux et qui marque l'ensemble de l'immigration algérienne. Il suffit de quelques événements marquants, et il y en a particulièrement dans la région de Marseille en 1973. Ça a été étudié notamment par Rachid Abrahim, mais il y en a aussi à Lyon, en banlieue parisienne. Ces violences marquent, puisque d'une certaine façon, elles sont concentrées dans des espaces sociaux relativement réduits et que va commencer à se diffuser dans les bidonvilles, dans un certain nombre de banlieues populaires, la mémoire de violences qui, à l'époque, ne sont pas simplement des violences policières, mais qui sont aussi les violences d'un certain nombre d'habitants qui blessent, mutilent, voire tuent de jeunes Algériens, notamment quand ils occupent l'espace public de façon un peu trop bruyante pour ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas de légitimité à s'exhiber ainsi.
Pour une partie de cette population qui ne se sent plus la bienvenue en France, la situation est maintenant intenable. Dans le paysage médiatique et les discours politiques, l'immigré se métamorphose. La génération dite des pères laisse place à celle des fils, le travailleur maghrébin laisse place aux jeunes de banlieue. Et ces jeunes, pour beaucoup nés en France, se nourrissent d'autres références que leurs prédécesseurs dans la contestation. Ils citent notamment Gandhi ou encore le mouvement américain des droits civiques. C'est le temps des protestations spontanées, des collectifs antiracistes et des premières émeutes. Emmanuel Blanchard.
Ce sont les descendants d'immigrés eux-mêmes qui, dans des collectifs apportés avant tout local, vont porter la voix de la contestation des violences racistes, qu'elles soient policières ou d'un certain nombre d'habitants. Et ça, c'est une histoire qui se noue à partir de la fin des années 70 et le début des années 80 et qui, d'une certaine façon, marque les prémices de ce qui va constituer la grande mobilisation contre le racisme et pour l'égalité, la marche de 1983.
Cette marche pour l'égalité contre le racisme de 1983, vous la connaissez peut-être également sous son surnom, la Marche des Beurs, popularisée notamment par le journal Libération. Mais nous préférons ici employer son véritable nom, celui qu'ont voulu ses instigateurs, qui pour la plupart ont rejeté ce surnom. En prenant cette initiative, ils souhaitent alerter l'opinion publique, notamment sur les violences policières survenues cette année-là dans le quartier des Minguettes de Vénissieux, près de Lyon, plus généralement sur les agressions et crimes racistes qui continuent de se multiplier, ou encore sur les conditions de vie précaires des personnes racisées. Aujourd'hui, elle est considérée comme un événement majeur dans la médiatisation de la cause antiraciste, notamment grâce à l'intérêt qu'elle a suscité à l'échelle nationale, jusqu'à toucher les représentants politiques, avec toutes les récupérations et promesses en l'air que cela peut comporter. Mais lorsque cette marche pacifiste part de Marseille le 15 octobre 83 pour rejoindre Paris à pied, elle ne réunit alors que quelques dizaines de personnes, soutenues par plusieurs personnalités locales. Un événement, toutefois, va vite devenir une caisse de résonance pour cette marche et cristalliser un grand nombre des tensions qui ne cessent de monter depuis une dizaine d'années. Le meurtre de Habib Ghremzi dans la nuit du 14 au 15 novembre. On pourrait croire que le malheureux protagoniste de notre série n'a finalement pas grand-chose à voir avec tout cela. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment, diront certains. Voici ce que l'on sait de Habib Ghremzi avec la précaution nécessaire qui s'impose lorsque l'on évoque une affaire vieille de 40 ans. Il serait né en mai 1957, à Trafaoui, près d'Oran, en Algérie. Mesurant un bon 1m60, il est décrit comme quelqu'un de plutôt poli et discret. Fils d'ouvrier spécialisé, il appartient à une grande fratrie. Après son service militaire, il devient agent de sécurité dans un dépôt de la Naftal, une firme de distribution de produits pétroliers. Il aime le football et la science-fiction. Au début des années 80, il aurait confié à un ami son envie de partir, ailleurs, bâtir une nouvelle vie. Alors, il commence à prendre des vacances à l'étranger. En Italie d'abord, en 82, puis, début novembre 83, il part pour quelques jours à Bordeaux, rejoindre une amie avec laquelle il imaginait peut-être un futur à deux. Mais le rêve est de courte durée, et le jeune Habib doit déjà prendre le chemin du retour, le 14 novembre, en commençant par prendre le train qui relie Bordeaux à Vintimille. Il voyage avec son Walkman, le casque sur ses oreilles. Peut-être se refait-il dans sa tête le film des jours écoulés. Peut-être pense-t-il déjà à son retour à la maison, sans se douter qu'il ne verrait plus jamais ni Bordeaux, ni Oran.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Ghremzi, un billet sans retour, une série signée Gabriel Taïeb pour Podcasting. Pour la réalisation de cet épisode, nous nous sommes servis de courtes citations extraites d'archives d'Antenne 2, de FR3 et de France Inter, disponibles sur le site de l'INA. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.